Chapitre 18. Et que vienne l'obscurité.
Majesté, nous devons prévoir les funérailles du roi au plus vite et décréter des journées de deuil dans tout le pays.
La reine était assise au bureau d'Eogan dont elle n'avait pas bougé depuis le matin. Les messagers défilaient les uns après les autres, apportant les condoléances du baron de Bizagne, du comte de Sarre et même de Saïmina. Les nobles et les notables se déplaçaient en personne pour venir voir le corps d'Eogan, encore allongé sur un grand lit décoré. Amin avait assuré son autorité le lendemain même de la mort de son mari en distribuant les consignes d'un bout à l'autre du palais. Avec une froideur terrible, elle avait pris la place d'Eogan et fait comprendre à toute la cour et à tout le personnel qu'elle n'avait pas l'intention, elle, de faire des concessions. Son règne serait de fer. Béli était l'un des anciens conseillers du roi, et c'était le seul avec lequel Amin était parvenu à s'entendre. Il essayait d'aider la reine à gérer la crise inévitable qui avait suivi le drame. Non pas qu'il crût un seul instant à l'innocence de la souveraine, mais sa soif de pouvoir suffisait à lui donner la force de la flatter et de lui prêter allégeance. Il espérait qu'en assistant Amin, elle lui donnerait de plus en plus de responsabilités dans le royaume.
Je vous laisse vous en charger, Béli. Mais je veux d'abord que l'on dise au peuple de Gaëlia que le roi a été assassiné par les druides, parce qu'il refusait de continuer à se laisser manipuler. Je veux que la Gaëlia, et la Galatie avant tout, me soutiennent dans mon opposition à Saïmina.
Vous voulez attaquer les druides ? Demanda Béli, inquiet.
Pas tout à fait. J'ai une vision très précise de l'avenir que je veux offrir à cette île, mon cher, et j'ai bien l'intention de la réaliser. C'est la première fois que la Gaëlia aura à sa tête un monarque capable de tenir tête aux druides. Je les soumettrai et les forcerai à venir s'installer à Providence. Et la place d'archidruide sera désormais occupée par le monarque de Gaëlia.
Vous voulez diriger le conseil ? Souffla Béli, ne pouvant masquer sa surprise.
Le soumettre, puis le diriger, en effet.
Les druides ne vous laisseront jamais.
Quand ils seront affaiblis, ils n'auront pas le choix,
le coupa Amin en se levant. Elle avança lentement vers son conseiller, le fixant droit dans les yeux, et prit sa tête entre ses mains comme pour l'empêcher de bouger.
Écoutez-moi bien, Béli. La Galatie ne participera pas à la guerre contre l'Arcour. Les druides vont se casser les dents. Et alors je sèmerai la zizanie au conseil jusqu'à ce que l'autorité d'Hernan soit détruite. Alors j'unirai de nouveau la Gaëlia tout entière sous la bannière de la Galatie. J'écraserai l'Arcour, la Terre Brune et les Touatan. En temps voulu. Qu'ils commencent à se battre entre eux. Cela me facilitera la tâche.
Elle lâcha la tête du conseiller et ouvrit un large sourire.
Je vais avoir besoin de vous pour cela, et je sais que votre ambition est grande, mon petit.
Votre plan est déjà très solide.
Il me faut un homme comme vous pour l'appliquer. Avant tout, assurez-vous que tout le peuple de Galatie soit convaincu de la culpabilité des druides dans la mort du roi. C'est la chose la plus urgente. Parallèlement, je veux que vous m'aidiez à mettre un peu d'ordre dans mon entourage. Je veux savoir sur quels nobles je peux compter, quels sont ceux qui médisent de moi dans mon dos et quels sont ceux qui sauront m'aider à donner à la Galatie plus de gloire qu'elle n'en a jamais eue.
Béli acquiesça.
Je ferai de vous le premier homme de la cour, si vous ne me décevez pas.
Et dans un premier temps, comment devons-nous nous comporter à l'égard des druides ?
Interdisez-leur l'accès à la Galatie, tant qu'ils n'auront pas reconnu mon autorité. Et trouvez-moi un homme capable de semer le trouble au sein du conseil.
Un espion ?
Un infiltré.
Et pour l'armée ? Les généraux étaient fidèles à Eogan ?
Dites aux militaires que j'augmente leur solde de moitié. Cela devrait suffire à nous attirer leur sympathie. Les soldats ne pensent qu'à deux choses, les femmes et leurs soldes. Pour les funérailles du roi, invitez le baron de Bizagne, le comte de Sarre, invitez même Mort, mon sordide beau-frère, et cette illuminée d'Alroeg. Mais si les druides demandent pourquoi ils ne sont pas invités, répétez-leur toujours la même chose. Ils ne seront pas admis sur ces terres tant qu'ils ne se seront pas soumis à mon autorité.
Bien, Majesté.
Beli s'inclina et quitta le bureau de la reine. Les cinq compagnons entrèrent dans Rhia à la nuit tombante. Fingin n'était plus le seul à s'être déguisé en acteur. Galliad et Erwan eux-mêmes avaient revêtu des habits de cheminant et leurs chevaux trottaient à côté de la roulotte pour donner l'impression d'une grande famille d'acteurs. Le magistel espérait seulement que Mel, qui semblait aimer s'amuser, ne lui demanderait pas en plus de jouer dans quelques pièces pour assumer encore mieux sa nouvelle identité. Les fenêtres aux étages s'éteignaient les unes après les autres dans les ruelles de Rhia. Seules les auberges restaient allumées, comme les casernes et le château, au centre de la ville, sur la petite colline de Paderne. Ils s'arrêtèrent devant une taverne bruyante, attachèrent les chevaux aux écuries et rangèrent la roulotte près des boxes. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, ce qui était préférable pour éviter de se faire remarquer. Une fois rentrés, ils durent attendre un peu avant qu'une table se libère, puis ils s'assirent enfin et purent commander un repas. Cela faisait longtemps qu'aucun d'entre eux n'avait eu de vrai dîner, et on pouvait lire sur leur visage le bonheur simple de manger un repas digne de ce nom. Ils commandèrent un agneau à la sauce aux prunes, accompagné de pois, de champignons et de riz blanc. Tout en mangeant, ils essayèrent, chacun de leur côté, d'entendre dans les conversations du soir quelque information qui puisse les aider dans leur quête. Le nom d'Aléa ne fut pas prononcé, mais ils apprirent une nouvelle qui les surprit tout autant. Ainsi, le haut roi de Gaelia était mort. Il avait été empoisonné. Les clients de l'auberge commentaient le drame avec une certaine indifférence, voire un peu de moquerie. La galaxie était loin, et aucun homme d'Harcourt ne se sentait plus concerné par le haut roi depuis fort longtemps. Ici, on obéissait au comte et à l'église. C'était amplement suffisant. La cicatrice de la guerre d'Harcourt ne s'était pas refermée, et la crise actuelle ravivait les mauvais souvenirs. Les cinq compagnons commençaient à se sentir mal à l'aise parmi cette assemblée quand un barde entra dans l'auberge. Il était assez vieux, mince, portait l'habit bleu de sa caste et une harpe sous le bras. Quand il aperçut les cheminants, il s'approcha de leur table. Les bardes se faisaient plutôt rares en Harcourt. Il n'était pas toujours bien vu, et sans doute celui-ci se disait-il qu'il serait mieux accueilli par les acteurs que par les autres personnes qui mangeaient et buvaient tout autour.
« Bonjour, chers enfants. Je suis Akano, barde, » dit-il poliment en s'approchant. « Puis-je m'asseoir à votre table ?»«
Bien sûr, » répondit Mel, en se poussant sur le banc pour lui laisser un peu de place.
« Tu es le bienvenu. »
Il s'installa, commanda une soupe, et poussa un long soupir de soulagement.
Que de route! Je suis bien content d'être arrivé. Mais je vois que vous aussi avez fait du chemin. Vos vêtements, comme les miens, sont couverts de sable.
En effet,
répondit Kathleen en tapant sur ses manches. Fingin, Erwan et Galliad n'osaient pas parler tant ils avaient peur de se trahir. Le barde n'aurait sans doute aucune peine à voir qu'ils n'étaient pas de vrais cheminants s'ils ouvraient la bouche. Il se contentait donc d'acquiescer ou de sourire de manière évasive.
« On ne voit pas souvent des cheminants par ici, »
fit remarquer le barde à qui l'on venait de servir sa soupe.
« Pas plus que des bardes, »
répliqua Mel.
« C'est vrai, » répondit Akano en baissant la voix. « Disons que l'Harcourt n'est pas des plus favorables aux gens de ma caste, »
expliqua-t-il en baissant la voix.
« Nous ne sommes pas aussi mal vus que les druides. » Mais ils savent que nous faisons partie de la même famille.
Pourquoi venez-vous alors?
Je suis né dans cette ville, à une époque où la situation était bien différente. On n'avait pas encore entendu parler des chrétiens et l'Harcourt était un comté comme les autres. J'ai gardé beaucoup d'amis par ici malgré tout, et je viens les voir tous les ans. Mais c'est chaque fois de plus en plus difficile de me faire accepter. Je pourrais cependant me déguiser.
Il fit une pause et leva les yeux vers Fingin.
« Cela marche très bien pour certains, » ajouta-t-il en souriant.
Le druide fronça les sourcils. Il avait été découvert encore plus vite qu'il ne l'avait imaginé.
« Ne craignez rien, » le rassura le barde. « Je suis presque aussi mal à l'aise que vous dans ce pays, même si j'y suis né. »
Fingin serra les poings sous la table. Il espérait que le barde ne les trahirait pas. Mais puisqu'il avait dû recevoir l'enseignement des druides pour devenir barde, sans doute pouvait-on lui faire confiance. « Le réseau des bardes marche-t-il jusqu'ici ?» demanda Galliad, qui savait qu'à présent, il était inutile de vouloir cacher son identité.
« Plus ou moins, »
répondit Akeno en avalant une cuillère de soupe chaude. Galliad lança un regard vers Fingin. Il se demandait s'il pouvait sans risque poser des questions aux bardes. Il y avait beaucoup de monde autour, et il ne devait pas se faire remarquer. L'arrivée d'Akeno avait déjà attiré l'attention de quelques clients. Il fallait donc se montrer encore plus prudent. Fingin comprit ce que Galliad attendait de lui. Il fallait trouver un moyen de parler de manière codée avec le barde. Le magistel savait qu'un druide pouvait faire cela. Il avait déjà vu Félim se livrer à l'exercice. Le jeune druide acquiesça discrètement et tourna la tête vers le barde. « Cela doit être difficile de retrouver ses amis dans une ville aussi grande, » dit-il. Le barde leva un sourcil. Il vit la tête de Fingin et comprit aussitôt à quel jeu le druide voulait jouer.
« Pas quand on est sûr qu'ils y sont, » répondit Akeno. « Je suis né ici. Je connais la ville comme ma poche et je sais exactement où sont mes amis. »
« Vous avez bien de la chance, » répliqua Fingin. « Pour ma part, j'ai parfois bien des difficultés. Il faut dire que nous autres, cheminants, voyageons beaucoup. Figurez-vous, par exemple, que je n'ai pas revu ma sœur depuis des années. »«
Votre sœur, vous dites ?» s'étonna le barde.
« Oui, ma sœur, je n'en ai qu'une, et je tiens beaucoup, beaucoup à elle. »«
Je vois. Et vous la cherchez ici ?»
« Je ne suis pas absolument sûr qu'elle soit là, mais il y a des chances. »«
Je peux peut-être me renseigner pour vous. »«
Vous m'obligeriez, » répondit Fingin, enchanté de voir que le barde avait compris le message.
« Dès que j'en sais plus, je vous tiens au courant. En attendant, je boirai bien un verre. »
Ils discutèrent ainsi avec le barde pendant une bonne partie de la soirée, découvrant un personnage sympathique et peu ordinaire. Puis ils se décidèrent enfin à aller se coucher. Après avoir salué le barde, ils demandèrent deux chambres à l'aubergiste et montèrent à l'étage pour s'installer. Mel et Caitlin prirent une chambre, Fingin, Galliad et Erwan partagèrent l'autre.
« Bonne nuit !»
chuchota Caitlin aux trois compagnons, mais c'était Fingin qu'elle regardait. Ils se séparèrent pour aller dans les deux petites chambres sombres qui occupaient le haut de l'auberge, sous les toits.
« Tu crois qu'il va trouver Aléa ?»
demandait Erwan à Fingin, comme celui-ci se tenait debout devant la fenêtre.
« Il vient de quitter l'auberge, et pourtant je l'ai vu demander une chambre. Je pense donc qu'il est parti chercher notre information.
J'espère qu'il n'est pas plutôt parti nous dénoncer. »
glissa Galliad d'une voix grave et profonde.
C'est un barde, Galliad. Il est de notre côté.
Un barde d'Arcourt.
Certes, mais un barde tout de même. S'il était favorable à l'Arcourt, il aurait quitté son habit bleu depuis longtemps. Venir jusqu'ici vêtu de la sorte est un acte de bravoure qui montre une fidélité certaine à la Moïra. Vous ne croyez pas?
Je l'espère.
Répondit simplement Galliad en s'allongeant sur un lit, passant les mains derrière sa nuque. Fingin regardait toujours vers la rue. La lune dessinait des ombres courbes sur son visage. Erwan détailla son ami. Il ne s'était pas vu depuis moins d'un mois, mais il lui semblait qu'une éternité s'était écoulée.
« Tu as changé, Fingin, »
dit le jeune magistel en souriant.
Tu es tellement plus... libre?
Je ne sais pas comment te dire.
Fingin tourna la tête.
Il s'est passé tellement de choses pendant votre absence qui m'ont obligé à me poser des questions que je n'aurais jamais imaginé devoir me poser. Ma foi en Saïmina a été mise à rude épreuve. J'ai quitté le conseil guidé par la rage, la frustration.
Pour les mêmes raisons que Félim?
Sans qui Galliad?
À peu près, oui, je suppose. Je ne comprends pas bien ce qu'Hernan veut vraiment. Je me demande si lui-même le sait. J'ai l'impression qu'il voulait me pousser à venir vous aider. Aider Aléa. Et en même temps, il semble vouloir se débarrasser d'elle.
Ne crois-tu pas qu'il a tout simplement peur ? Suggéra Galliad.
Ce n'est pas un sentiment que l'on attend de la part d'un archidruide.
D'ordinaire, non, répondit Galliad. Mais c'est un peu normal d'avoir peur d'Aléa. Félim lui-même était terriblement inquiet.
Cela ne l'a pas empêché de la protéger.
En effet, reconnut le magistel. Et en cela, vous vous ressemblez fort. Je crois que la Gaëlia doit changer. L'équilibre qu'elle avait atteint devenait fragile, et il fallait qu'elle change. Et ce changement, c'est Aléa qui l'apporte. Comme toute rupture, celle-ci sera douloureuse. Toute la question est de savoir quel monde ce bouleversement nous apportera. Aléa parviendra-t-elle à modifier la Gaëlia comme elle le souhaite? Et si oui, quelle vie nous offrira-t-elle alors? Voilà une question qui doit être terrifiante pour le Conseil, terrifiante pour un ordre qui contrôle cette île depuis tant d'années et qui jamais n'avait imaginé qu'il pourrait en être autrement. Pourtant, le Conseil devrait savoir que ce qui compte, ce n'est pas la survie de l'ordre lui-même, mais celle de l'île tout entière, s'exclama Fingin comme s'il voulait que Saïmina l'entende.
Cela tu l'as compris, comme Félim. Hernan l'a peut-être saisi lui aussi, tu sais. Mais son poste d'archidruide l'empêche sans doute de l'accepter. Il est là pour maintenir le conseil.
Fingin soupira. Félim aurait sans doute su ce qu'il faudrait faire, dit-il d'un ton désespéré. Erwan se leva pour s'approcher d'eux et intervint.
Mais tu te débrouilles très bien, il me semble. Et il en a fallu du courage à ton âge pour prendre la décision de quitter le conseil.
Fingin se retourna et adressa un sourire reconnaissant à son meilleur ami.
Et toi, tu l'avais retrouvé?
Ouais, mais je n'ai pas suffi. Mon père et moi ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Félim est mort, et nous avons été projetés tous les deux dans une sorte de rêve éveillé.
Le monde de Char, murmura Fingin. Aléa nous a entraînés dedans. Elle doit pouvoir le maîtriser, comme Kiaran. Il nous a révélé l'autre jour au conseil qu'il la voyait là-bas chaque soir. Elle nous a dit de fuir, puis elle s'est battue contre le prince des Eridim. Nous ne savions pas quelle avait été l'issue du combat. Puis j'ai revu Aléa dans ce monde étrange et j'ai compris qu'elle avait donc battu son ennemi. Et maintenant, elle semble vouloir se rendre à mon tombe, disiez-vous. Je me demande qu'elle peut bien vouloir y faire.
Ce qui compte pour le moment, intervint Galliad, c'est de la retrouver. Mais si vraiment elle a été capturée par Alroeg, la délivrer risque d'être particulièrement difficile.
Ils se turent tous les trois et laissèrent passer un long moment de silence, puis Fingin partit s'allonger à son tour. Tous trois dans leur lit à présent, aucun n'avait encore fermé les yeux. C'était une de ces nuits où l'on sent la vie s'accélérer comme d'elle-même, et où, le cœur battant, on sait déjà que le sommeil tardera à venir effacer ses angoisses.
« Et toi ?» reprit finalement Erwan. « J'ai bien l'impression que... »«
Que quoi ?» réagit Fingin en se relevant sur un coude. Erwan ne put retenir un petit rire moqueur. Le druide s'impatienta.
« Quoi ? Disons que tu es vraiment très... courtois ?» Avec cette Kaitlyn.
Fingin écarquilla les yeux.
C'est toi qui me dis ça? S'exclama-t-il, outré. Toi, qui as quitté Saïmina pour les beaux yeux d'une brune?
Cette fois, les deux garçons rirent ensemble.
Galliad soupira. C'est bien la première fois que je vois un druide et son magistel aussi ridicules l'un que l'autre, ironisa-t-il en se couvrant le visage d'un oreiller pour faire mine de ne plus vouloir les entendre.
À cet instant, on frappa à la porte. Galliad se leva d'un bond. Il prit son épée d'une main et partit ouvrir prudemment. Akano apparut sur le palier.
« Je crois bien que je sais où est votre sœur, »
annonça-t-il en entrant dans leur chambre.
Galliad se poussa pour le laisser passer, jeta un coup d'œil dans le couloir et referma la porte derrière lui.
Aléa est retenue prisonnière par le comte Alroeg,
annonça Akano,
ainsi que deux de ses compagnons, une barde et un nain cornemuseur.
Les trois amis échangèrent des regards inquiets.
C'était donc vrai, soupira Fingin.
Ils sont enfermés dans les sous-sols du château, ici même, à Rhia. Je ne sais pas pour combien de jours, mais le comte ne doit pas avoir le temps de s'occuper d'eux pour le moment. La guerre contre les druides et les Tuatan a été annoncée. L'armée se prépare.
Galliad regarda Fingin, puis son fils, et alla enfin se placer devant le barde.
Merci, Akano, merci. Croyez-vous que nous ayons une chance de la délivrer?
Le barde écarquilla les yeux.
La délivrer du château de Rhia? S'exclama-t-il. Mais c'est une forteresse remplie de soldats et pas des moindres. Je suppose que vous connaissez la réputation des soldats de la flamme.
Mais tout de même, insista le magistel, si nous voulions la délivrer, comment devrions-nous opérer à votre avis? Vous connaissez bien la ville.
Je ne pense pas que cela soit possible, mes amis. Je suis désolé. À moins que les soldats soient si préoccupés par les préparatifs de la guerre qu'ils en viennent à négliger la surveillance du château. Vous aurez peut-être plus de chance ce soir que n'importe quel autre soir. Mais ça risque d'être très dangereux.
Galliad acquiesça. Il regardait le barde droit dans les yeux, mais son regard semblait absent, comme s'il était déjà en train de faire des plans.
Y a-t-il plusieurs entrées au château?
Reprit le magistel.
Bien sûr, mais je ne les connais pas toutes.
Allons, Akano. Si vous étiez à notre place, comment procéderiez-vous?
Je n'aurais jamais le courage d'entrer secrètement dans le château du comte Alroeg.
Galliad soupira. Fingin et Erwan se tenaient debout derrière lui. À présent, ils étaient sûrs qu'Aléa était là, enfermée tout près de l'auberge, et ils étaient envahis par un sentiment brûlant d'urgence.
Attendez,
dit soudain Akano.
Je suis incapable de vous aider, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous être utile.
Je vous écoute, le pressa Galliad.
L'un de mes amis est un maître maçon de la ville. Il a plusieurs fois dirigé des chantiers au château et le connaît sans doute fort bien. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'il acceptera de vous aider. Il n'a rien contre Alroeg.
Je me chargerai de le convaincre, intervint Fingin. Allons le voir tout de suite.
Si tard?
S'exclama Akano.
Vous avez dit vous-même que ce soir était le meilleur soir, répliqua le magistel.
Le barde haussa les épaules.
C'est vrai, mais cela risque de ne pas lui faire plaisir. Vous avez intérêt à être convaincant.
Je vais chercher Mel et Kathleen, annonça Fingin en se précipitant vers la porte.
Vous êtes sûr?
L'arrêta Galliad. Le druide acquiesça.
Ce sont des combattants bien plus agiles que vous ne pourriez l'imaginer.
La barde se tenait à genoux devant Dermot Kahl, le visage tuméfié et strié de sang. Le village tout entier brûlait derrière la silhouette noire du mort-vivant. Les rues grouillaient de gorgones. Ces monstres cruels couraient derrière les derniers survivants pour les achever, détruisaient les maisons que les flammes n'avaient pas encore dévorées et saccageaient tout sur leur passage. Les cris des femmes se perdaient dans le vacarme des poutres qui s'écroulaient parmi les braises dans de grands nuages de fumée noire. Le feu s'étendait maintenant aux prairies alentour et dans les granges pleines des récoltes de l'été.
« Je suis sûr que tu sais où se trouve la jeune fille. »
répéta Dermot Kahl de sa voix caverneuse. La barde crut voir de la fumée sortir de la capuche noire de son bourreau. Une fumée étrange, qui ne s'évaporait pas. On ne voyait ni le visage, ni même les yeux du mort-vivant dans l'ombre de l'étoffe épaisse.
« Les nouvelles vont vite en ce moment dans votre petit réseau. »
Il leva les bras au-dessus de la jeune femme et abattit sur elle le revers de sa main gantée. La gifle la saisit violemment en plein visage et la barde tomba de nouveau sur le sol, où elle se brisa le nez.
Le sang se mêla sur ses joues et sur ses lèvres aux larmes qui coulaient encore de ses yeux. La jeune barde, Caedlin, était arrivée la veille dans ce petit village du sud de la galaxie, au bord du fleuve Sinaïne. C'était une femme superbe, qui venait de finir son enseignement et parcourait le pays depuis quelques mois seulement pour éprouver ses premiers contes, ses premières chansons. Et tout cela risquait de se finir ce soir, en un instant. Parce qu'elle s'était trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle se demanda pourquoi la Moïra l'avait conduite ici. Qu'avait-elle fait pour mériter cela? Et surtout, qui était cette créature effrayante et infâme qui la maltraitait ainsi?
Pourquoi refuses-tu de parler? Tu espères la protéger. Si ce n'est pas toi, quelqu'un d'autre cédera à ta place quand je t'aurai tué. Parle! Où est-elle?
Mais la barde ne pouvait répondre. Elle ne comprenait pas pourquoi. Quelle force inconsciente, quelle raison bornée la poussait ainsi à garder le silence. La certitude inavouée que de toute façon elle allait mourir. À quoi bon trahir une enfant qu'elle ne connaissait pas, puisqu'il allait certainement la tuer? Caedlin pleurait. Elle pleurait les heures passées au chevet de sa mère mourante. Elle pleurait ses années à l'école des druides, les mois sacrifiés au plaisir de conter. Les histoires merveilleuses, les chansons nouvelles ou oubliées. Le sourire d'une gamine à la fenêtre d'une auberge qui écoutait, cachée, ses plus incroyables récits. Et elle pleurait un futur qu'elle ne connaîtrait pas. Les villes dont elle avait rêvé, les rencontres attendues, les élèves qu'un jour elle aurait accueillis. Elle pleurait, et cela l'aidait peut-être à ne pas parler. À attendre simplement que le noir se fasse, et que vienne l'obscurité. Dermotka l'écouta comme s'il l'amusait les sanglots étouffés de la jeune femme, puis il s'approcha d'elle et se pencha sur son petit corps blessé. Il posa une main sur le front de la barde.
« Tu m'obliges donc à lire tes pensées, » dit-il en soupirant. « J'ai horreur de cela. »
Caedlin se débattit. Elle essaya de repousser la main sur son front, mais Dermotka avait une force surhumaine, et ses doigts agrippèrent le crâne de la barde de telle sorte qu'elle ne put bientôt plus bouger. Sa tête était prise dans un étau qui serrait de plus en plus fort. Et soudain, elle sentit la présence du Saïman. Une force étrangère dans son esprit. La force des druides. Elle en était sûre. Elle n'avait jamais eu le droit de la toucher, mais elle la connaissait. Il n'y avait pas de doute. C'était bien le Saïman. Elle sentit, impuissante, l'énergie qui violait ses souvenirs, fouillait sa mémoire, la traversait de part en part.
« Ainsi elle est à Ria, »
commença Dermotkal, la tête levée vers le ciel comme s'il tendait l'oreille pour entendre un murmure lointain.
Je vois. Alroeg l'a capturée. Elle est dans le château d'Harcourt. Voilà.
Il lâcha le front de la barde et la poussa violemment en arrière. Caedlin tomba à la renverse et n'essaya même pas de se relever. Elle était à bout de force.
Tu vois, cela aurait été plus simple de me le dire tout de suite, chère cousine.
Dermotkal fit demi-tour et partit vers son cheval, abandonnant au sable le corps meurtri de la barde. Le mort-vivant monta sur son étalon noir et partit au pas vers le nord. Les gorgounes l'aperçurent depuis la ville et commencèrent à se regrouper par tribus. Leur guide n'avait pas besoin de parler. Ils se contentaient de le suivre, partout où il allait. Les 12 armées de Gorgounes se remirent en marche, sortant par milliers du village enflammé. Quand ils passèrent à côté de la barde, ils furent plusieurs à se jeter sur elle et un nuage de poussière posa un voile pudique sur ses derniers instants.
« Mais pourquoi vous aiderais-je ? »
demanda le maçon comme Fingin avait fini de lui résumer leurs aventures. Ils étaient entrés en pleine nuit dans la maison de l'artisan et se tenaient maintenant dans sa cuisine. Fingin et Akano s'étaient assis avec lui à la table,
Derrière eux, Mel, Kathleen, Erwan et Galliad attendaient sans faire de bruit. Et de l'autre côté, la femme du maçon écoutait, installée timidement en retrait dans le petit couloir qui donnait sur cette pièce. Aléa est recherchée par le conseil, par la galaxie, par Maol Morda et son armée de Gorgones, par l'Arcour. Tous les gouvernants de ce pays veulent la capturer. Pour quelle raison, à votre avis? Parce que cette jeune fille a le pouvoir de changer les choses et que les politiciens ont horreur du changement. Mais vous, vous ne voulez pas que les choses changent? Le maçon ne se montra pas convaincu. Fingin devinait qu'il n'était pas tout à fait opposé à l'idée, mais le risque qu'on lui demandait de prendre était sans doute bien trop grand.
« Ansel, qui que soit cet enfant, »
intervint Akeno.
« Crois-tu qu'une fillette de cet âge ait sa place dans les cachots de Ria ?»
Erwan s'approcha à son tour.
« Monsieur, j'ai parcouru toute l'île pour secourir Aléa. Elle est pour moi tout ce qui compte. Nous ne vous demandons pas de la délivrer, ni de prendre publiquement parti en notre faveur, mais simplement de nous guider dans le château pour que nous ayons au moins une chance de lui porter secours. Vous irez aussi loin que vous le voudrez. Quand vous trouverez notre route trop dangereuse, vous pourrez faire demi-tour. Aucun de nous ici ne saurait vous en tenir rigueur. »
Le maçon soupira. Il savait que le risque était trop grand, mais il était difficile de s'opposer à tous ces hommes d'un rang si élevé. Il se retourna pour chercher un peu de secours dans les yeux de sa femme, et à la surprise de tout le monde, celle-ci prit la parole, d'une toute petite voix.
« Si monsieur est druide et qu'il a quitté Saïmina pour sauver cette fille alors que le conseil lui-même la recherche, c'est qu'elle doit être vraiment spéciale ?»
se risquait-elle en regardant son mari.
« Ces gens ont l'air de lui porter beaucoup d'amour. Ce doit être une fille extraordinaire, Ansel. Je crois que tu devrais les aider. »
« Mais c'est de la pure folie !»
s'exclama le maçon en faisant de nouveau face aux visiteurs.
« Savez-vous combien de soldats se trouvent dans l'enceinte du château ?»«
Nous n'avons pas l'intention d'entrer en fanfare et de les réveiller tous. Justement, si vous nous aidez à trouver un chemin discret, nous pourrions essayer de la délivrer sans que personne ne nous entende et être loin d'ici avant que l'alerte ne soit donnée. »
Le maçon posa ses mains sur la table et leva les yeux au plafond. Fingin ne parvint à déterminer si c'était un signe d'exaspération ou si l'artisan cherchait une solution. Le druide regarda sa femme, cachée dans l'ombre du couloir, mais il ne put lire aucun signe sur les traits de son visage. Puis soudain, ses épaules s'affaissèrent dans un soupir.
« Nous pourrions passer par les canaux d'évacuation de l'eau et des déchets, mais en cette période de l'année, il risque d'être obstrué et l'odeur serait insupportable. » Notre chance est peut-être le chemin le plus fou, et il faudrait un culot extraordinaire pour oser passer par là. Mais après tout, c'est justement pour cette raison que c'est la seule voie qui ne soit pas gardée par les soldats. »
« Oui, » le pressa Fingin.
« Le souterrain secret du comte. C'est par là que les architectes ont prévu qu'ils puissent s'évader si la forteresse était assiégée. Le problème, c'est qu'ils donnent directement dans le bureau d'Alroeg. Il y a peu de chances qu'ils s'y trouvent en pleine nuit, cependant. »
« Pas si sûr ?» intervint Akeno.
Il doit être en ce moment même en train de préparer la guerre. Il n'ira peut-être pas se coucher toute la nuit. Peut-être, mais s'il prépare la guerre, ce n'est sûrement pas dans son office,
rétorqua Ansel.
Il doit être avec tous les généraux, et son bureau est trop petit pour cela. Je pense plutôt qu'ils se trouveront à l'étage du dessus, dans la grande pièce des archives. C'est là qu'ont lieu la plupart des grandes réunions qu'organise le comte.
« De toute façon, nous devons prendre le risque. Mais quand nous serons dans le bureau du comte, comment trouverons-nous les cachots ?»«
Il faudra descendre par l'escalier sud. Je peux vous faire un plan, mais vous croiserez peut-être des soldats. Et surtout, les cachots sont au bout d'un couloir dont l'entrée est sûrement bien gardée. Ce qui est dommage, c'est que le souterrain du comte passe justement à côté des cachots. Mais les murs sont bien trop épais, il faudrait plusieurs jours pour passer à travers. »
À ces mots, une lumière sembla illuminer le visage du druide.
Peut-être pas, glissa Fingin. Je pourrais essayer quelque chose.
Le maçon leva les yeux vers le druide.
Détruire un mur si épais? Vous plaisantez?
Je ne peux pas en être sûr,
Mais si cela nous évite de passer à travers toutes les pièces du château, cela en vaudrait la peine, n'est-ce pas ?
Aussi impossible que cela paraisse, ce serait de loin la meilleure solution,
admit l'artisan d'un air presque excité.
Je pourrais vous montrer exactement à quel endroit du couloir vous passerez à côté des cellules.
Fingin hocha la tête en souriant. Monsieur, vous êtes notre sauveur. Nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut partir dès maintenant. Le maçon se retourna pour regarder sa femme. Il se demandait s'il n'avait pas fait une énorme erreur. Il n'avait jamais pris un risque si grand de toute sa vie, et il était sur le point de trahir le comte Alroeg, pour lequel il avait pourtant quelque estime. Mais sa femme lui adressa un sourire rassurant. Elle semblait fière de lui, et cela lui donna le courage de se lever.
Alors, allons-y. L'entrée du couloir est à l'extérieur de la ville.
Cela faisait un bon moment qu'ils marchaient dans le souterrain de Rhea. Ansel leur avait donné un nombre suffisant de torches pour qu'ils puissent s'éclairer dans le long couloir, et ils avançaient à la lumière vacillante de leurs flammes. Le maçon et le barde les avaient laissés à l'entrée du boyau. Les cinq compagnons les avaient remerciés plusieurs fois, non sans émotion. Fingin, alors, avait songé que la bienveillance de ses habitants d'Arcourt était porteuse d'espoir. La Gaëlia n'était peut-être pas tout à fait dissolue. Le druide avait écouté attentivement les recommandations d'Ansel. Il espérait qu'il ne pourrait se tromper d'endroit. Il envoyait devant lui des vagues de Saïman pour sonder l'obscurité du couloir, mais cela ne l'empêchait pas d'éprouver une grande tension. Contrairement à Galiad ou Erwan, et peut-être même à Caitlin et Mel, ce n'était pas un homme de terrain. Il n'avait pas l'habitude de se lancer ainsi dans l'aventure. Fingin était donc particulièrement inquiet, et pourtant, il ne regrettait rien. Il avait l'impression enfin de servir la Moira, de servir la Gaëlia. Le jeune homme avait beau être loin du conseil, il n'avait jamais eu autant le sentiment d'être druide. Comme s'il renouait avec les racines profondes de sa caste, celles dont Saïmina n'aurait jamais dû s'écarter. Mettre son savoir au service des autres. Les murs du couloir étaient humides et froids. La température ne cessait de chuter. Ici, on était loin de l'été qui brûlait à la surface. Le sol de terre devenait de plus en plus boueux à mesure qu'on s'enfonçait. Les bruits des pas résonnaient entre les longues parois de pierre où quelques petits courants d'air venaient faire trembler la flamme de leurs torches. Ils avançaient en silence les uns derrière les autres, Fingin en tête et Galiad fermant la marche, en retrait. Aucun n'osait parler. Ils étaient encore loin du château, mais ils avaient déjà peur d'être repérés. Soudain, ils entendirent un claquement sec au-dessus d'eux. Caitlin poussa un petit cri aigu. Une chauve-souris les dépassa, affolée. Fingin émit un soupir de soulagement. Ils se remirent en route. Le druide, qui avait perdu en sursautant le contact avec le Saïman, raviva l'énergie dans son esprit. Il projeta les vagues chaudes devant lui. C'était comme s'il tendait les bras dans le noir. Le Saïman se heurtait sur les murs et revenait vers lui, dessinant dans son esprit la forme des choses. Il voyait à travers lui. Il entendait chaque bruit, l'écho de leurs pas, le souffle de leur respiration. Il sentait les odeurs, l'humidité du souterrain, la sueur de ses compagnons, la moisissure des pierres. Le Saïman aiguisait ses sens, accentuait les signes du monde autour de lui. Son esprit semblait se perdre dans les nombreux détails qui l'envahissaient. Un caillou sur le chemin, une pierre déchaussée, une chauve-souris, immobile cette fois, le crépitement des flammes. Et soudain, il éprouva une étrange impression. Le druide s'immobilisa aussitôt en se redressant. Erwan, surpris, se heurta à lui dans son dos. « Que se passe-t-il ? S'enquit le jeune magistel.
Chut ! »
répliqua Fingin en levant une main. Là, à droite, il avait senti quelque chose d'inhabituel. Pas une pierre, pas une chauve-souris, rien de tout cela. Une source de chaleur, comme une vague dansante. Il chercha de nouveau, envoya le Saïman partout autour de lui. L'énergie se faufilait au cœur des pierres,
sous la terre. Et il sentit de nouveau cette autre énergie, comme un autre Saïman.
Aléa ?
Il ferma les yeux. Il devait réussir à envoyer son message, par la pensée. Porter ses mots dans le souffle du Saïman.
Aléa, qui es-tu ?
C'était la voix de la jeune fille, à n'en pas douter.
C'est Fingin.
William, je suis l'ami d'Erwan. Tu te souviens ? Le druide put sentir l'émotion d'Aléa dans les vibrations du Saïman.
Fingin ? Bien sûr. Tu as reçu mon message ? Mais je te demandais de venir à mon tombe.
Nous avons appris que tu étais ici.
Nous ?
Oui, je suis avec Erwan et Galiad, et deux autres amis, Mel et Kathleen, des cheminants.
Erwan est là, et Galiad aussi ?
Oui, je sens leur présence à présent.
Tu dis vrai ? Oh merci, Fingin, merci.
Faith et Mjoln sont avec toi ?
Oui, ils dorment pour le moment.
Que se passe-t-il ? S'impatienta Erwan en voyant son ami immobile, comme envoûté. Le druide secoua la tête.
Silence ! S'exclama-t-il.
Aléa est juste là, de l'autre côté.
Tu es sûr ?
Répliqua Erwan en saisissant le bras de son ami.
Chut !
Répéta Fingin, et il se plongea de nouveau dans les flots du Saïman.
Tu maîtrises bien le Saïman pour une jeune fille qui n'a pas appris.
Tu auras sûrement des choses à m'apprendre. C'est pour cela que je t'ai envoyé ce message, entre autres.
Pour le moment, nous allons déjà te sortir de là. Erwan est impatient de te voir, j'ai l'impression.
Moi aussi.
Mais comment faire ? Crois-tu qu'ensemble nous puissions détruire ce mur ?
C'est précisément ce que je m'apprêtais à faire quand vous êtes arrivés. Je venais de découvrir qu'il y avait un espace derrière ce mur.
Où êtes-vous exactement ? Dans une autre cellule ?
Non, c'est un long souterrain qui mène hors de la ville.
Parfait, je vais réveiller Mjoln et Faith.
Fingin se retourna lentement vers ses compagnons, perplexe.
Aléa est là, avec Mjoln et Faith.
Reculez un peu, nous allons essayer d'abattre ce mur.
Elle va bien ? Le pressa Erwan en reculant.
Oui, allons, poussez-vous. Le druide fit face au mur et retrouva le contact du Saïman. Il essaya de saisir une pierre. L'énergie se faufilait autour du large cube. Il fallait d'abord attaquer les joints de terre. Le Saïman se transforma en milliers de petits pics qui creusaient autour de la pierre. Le joint s'effrita lentement, coula le long du mur comme une fine fontaine. Petit à petit, la pierre fut entièrement dégagée. Fingin essaya alors de la déplacer avec la force du Saïman, mais il ne parvenait pas à la maintenir. Les gestes devaient être précis. Il essaya de nouveau. Il fallait lever et tirer à la fois. Il se demanda si cela n'aurait pas été plus facile avec ses mains, mais la pierre était sûrement beaucoup trop lourde, même pour le plus fort des hommes. Soudain, il sentit qu'elle bougeait. Sans le vouloir, dans l'énervement, il avait augmenté la pression du Saïman de toutes parts, et de fait, cela fonctionnait mieux. Il fit encore un effort et la pierre tomba soudain hors du mur dans un vacarme assourdissant. Les quatre autres sursautèrent et reculèrent encore davantage.
« Ce n'est pas très discret, » fit remarquer Galiad.
« Désolé, » s'excusa le druide. « Il faut que j'essaie de retenir la pierre. Ce n'est pas si facile que ça.
Ne t'inquiète pas, continue, l'encouragea Erwan, impatient.
Le druide se concentra de nouveau. Il entendait le mouvement des pierres de l'autre côté. Aléa allait plus vite que lui. Il dégagea une seconde pierre, puis une troisième. Chaque fois, il réussissait à faire de moins en moins de bruit, mais le choc des blocs qui tombaient sur le sol résonnait tout de même à travers le couloir. Fingin espérait seulement qu'on ne pouvait entendre ces bruits sourds jusque dans le château. Mieux valait se dépêcher. Bientôt, il put voir physiquement une pierre qui bougeait et sur laquelle il ne travaillait pas lui-même. La dernière qui les séparait des trois prisonniers. Il redoubla d'efforts et dégagea un autre pan du mur. Enfin, Le jour se fit à hauteur de taille, et il vit apparaître derrière un nuage de poussière les visages de Mjoln, Faïs et Aléa. Le druide poussa un cri de joie. Galliad et son fils se précipitèrent à côté de lui.
« Aléa !»
s'écria Erwan. La jeune fille tendit la main à travers le mur. Le jeune magistel la serra fort entre ses paumes.
« Comme je suis contente de vous voir !» dit Aléa.
« Tada ! Mon professeur d'escrime ! Quelle surprise ! Et voici Monsieur Galliad, son père ! Ah, ça, oui, je suis content aussi !»
Dépêchons-nous, les pressa Faïs dont le sourire n'était pas moins grand.
Je crois que j'entends du bruit derrière notre porte.
De fait, ils entendirent alors les voix étouffées des gardes de l'autre côté de la cellule.
Par la Moira,
jura Mjoln,
nous avons dû faire trop de bruit.
Poussez-vous, ordonna Fingin qui voulait enlever encore quelques pierres pour que les prisonniers puissent s'échapper.
Aléa, aide-le, nous allons essayer de retenir la porte, s'exclama Faïs. Mjoln, venez m'aider.
La barde et le nain appuyèrent tous les deux sur la porte de toute leur force. Les gardes venaient de glisser les clés dans la serrure. De leur côté, Fingin et Aléa accélérèrent le travail du Saïman sur le mur. Au point où ils en étaient, le druide ne faisait plus attention au bruit. L'énergie commençait à lui manquer et il perdit un peu l'équilibre. Il s'appuya sur la paroi derrière lui pour retrouver un peu d'énergie et envoya toute la force qui lui restait contre les dernières pierres. Voyant que cela n'allait pas assez vite, Galliad se précipita aux côtés du jeune druide et essaya de l'aider avec les mains. Il tira les pierres à bout de bras, poussant des cris de rage pour se donner de la force. Il fit un bond en arrière pour esquiver la pierre qui avait enfin lâché et enleva son pied de justesse.
« Venez ! » cria-t-il aux trois prisonniers. « Il y a la place pour passer à présent !»
Aléa fit volte-face. Elle vit que Mjoln et Faïs ne parvenaient plus à retenir la pression que les gardes exerçaient pour ouvrir la porte. Elle ferma les yeux et envoya le Saïman autour d'eux.
« Poussez-vous »
cria-t-elle, et voyant qu'elle tendait les mains d'une étrange façon vers eux, Faïs et Mjoln lui obéirent aussitôt. La porte se referma complètement d'un seul coup, sectionnant les doigts d'un garde qui était parvenu à passer la main. Le soldat hurla de douleur.
« Allez-y !»
ordonna Aléa sans lâcher prise. Mjoln poussa la barde devant lui. Elle passa une jambe par-dessus le tas de pierres au sol, se baissa et se faufila de l'autre côté. Galliad l'attrapa par les épaules et la serra dans ses bras.
« Vous m'avez manqué !»
chuchota-t-elle à son oreille, avant de se pousser pour laisser passer Mjoln. Le nain regarda Aléa derrière lui. Il hésita un instant, puis au lieu d'enjamber les pierres comme l'avait fait la barde, il sauta tête la première et s'étala dans le souterrain de tout son long. Kathleen l'aida à se relever.
« Bonjour, madame !»
dit-il simplement en époustant ses manches. Aléa continuait de pousser la porte avec la force de son esprit. Quand elle vit que ses deux amis étaient passés de l'autre côté, elle recula lentement, pas après pas, sans perdre le contact du Saïman.
« Commencez à courir ! Prenez un peu d'avance ! Je vais devoir lâcher la porte d'un seul coup et courir après vous » cria-t-elle.
Galliad donna une torche à Faïs et la fit avancer dans le souterrain pour qu'elle s'enfuit.
« Dépêchez-vous ! »
Le magistel poussa tous ses compagnons les uns derrière les autres pour qu'ils se mettent en route eux aussi. Mjoln lança un dernier regard à Aléa.
« Fais attention, lanceuse de cailloux !»
cria-t-il avant de se mettre enfin à courir. Galliad à présent était seul devant l'excavation, prêt à aider Aléa.
« Allez-y !» lança la jeune fille. « Je vous rejoins tout de suite !»«
Non, Aléa, c'est moi qui fermerai la marche. Je ne pars pas sans toi. J'ai perdu Félim, je ne te perdrai pas !»
Aléa hésita un instant. Elle tourna lentement la tête pour voir le tas de pierres derrière elle. Elle allait devoir faire vite. Dès qu'elle lâcherait la porte, les gardes seraient derrière eux.
« Attention, Galliad !»
préféra-t-elle prévenir en se préparant. Le magistel passa les deux mains par l'ouverture dans le mur et saisit Aléa par les épaules.
« Je vais te hisser de ce côté-là, » expliqua-t-il. « Tu es prête ?»«
Oui, »
dit-elle, hésitante. Le magistel inspira profondément. Il serra les mains sur les épaules d'Aléa et soudain l'attira vers lui de toutes ses forces.
La jeune fille poussa un cri et au même moment, la porte de la cellule céda et claqua violemment contre le mur.
« Cours !»
hurla Galliade en poussant Aléa devant lui. Elle n'attendit pas un seul instant et courut droit dans l'obscurité. Galliade se précipita derrière elle. Il avait à peine eu le temps de voir les soldats débouler dans le cachot. Ils étaient au moins 3, peut-être 4, et ils avaient sûrement donné l'alerte. Galliade pouvait voir par-dessus les épaules d'Aléa les torches de leurs compagnons qui vacillaient au loin, plus haut dans le couloir. Il poussait la jeune fille dans le dos pour qu'elle court plus vite, la portait presque. Aléa manqua plusieurs fois perdre l'équilibre, mais chaque fois, le magistère était là pour la retenir. Les bruits de course des soldats derrière eux se firent de plus en plus proches.
« Arrêtez-vous !»
hurla l'un d'eux, le souffle coupé. Aléa essaya de courir encore plus vite. Elle aurait voulu trouver le Saïman pour y puiser un peu de force, mais elle ne parvenait pas à le contrôler. Il était là, au milieu de son front, mais la course, la panique et la fatigue le rendaient insaisissable. Soudain, elle sentit que Galliade n'était plus derrière elle. Elle fit volte-face et vit que le magistère s'était retourné pour affronter leurs poursuivants. Aléa essaya de retrouver son souffle, s'appuya aux parois du souterrain et chercha le Saïman au fond d'elle. Galliade dégaina Bantral. Il leva l'épée au-dessus de lui et poussa le cri de guerre de son ami le nain.
« Al-Ragan !»
Le magistère abattit son épée sur le premier soldat. La lame étincela devant lui et atteignit son opposant à l'épaule. Le soldat perdit l'équilibre et tomba sur le côté. Le deuxième homme derrière lui sauta par-dessus son compagnon et abattit sa hache sur Galliade. Le magistère fit un bond de côté et esquiva l'arme lourde. Il recula le coude pour armer son bras et d'un coup sec enfonça son épée dans le ventre du guerrier. Le premier soldat venait de se relever et était sur le point d'asséner un coup de massue sur la nuque du magistère quand une sorte d'éclair l'atteignit en plein visage, le foudroyant et le projetant contre le mur, la peau entièrement brûlée. Galliade fit un bond en arrière, jeta un regard derrière lui et vit les bras dressés d'Aléa. Il lui fit un signe de tête, leva Bantral au-dessus de son épaule et fondit sur le dernier soldat, qui, abasourdi par l'éclair qui avait emporté son acolyte, s'était arrêté, les bras ballants, au milieu du couloir. L'épée du magistère lui trancha la tête d'un seul coup. Galliade n'attendit même pas de voir tomber le corps décapité du dernier soldat et se retourna vers Aléa. « Allons-y, » dit-il en posant une main sur l'épaule de la jeune fille. Ils se remirent à courir vers la sortie du souterrain. Bientôt, ils virent apparaître la faible lumière de la lune au bout du couloir. La sortie était toute proche. Mais Galliade vit une agitation au bout du tunnel.
« Que se passe-t-il »
cracha-t-il à bout de souffle.
« Il doit y avoir des soldats à la sortie !» s'exclama Aléa, voyant que leurs compagnons se battaient.
« Cela ne s'arrêtera jamais !»
Galliade accéléra sa course et passa devant la jeune fille. Il entendait des cris et le bruit des épées juste en face de lui. Il se mit à hurler, amenant Bantral devant son visage, et dès qu'il fut hors du souterrain, il fondit sur le premier soldat qu'il aperçut. Ils étaient une dizaine encore debout, et 3 ou 4 au sol. Sans doute alertés par l'un des gardes, ils étaient venus jusque-là à cheval, et Galliade vit au loin que d'autres encore arrivaient. Il faisait nuit, et le combat était des plus confus. Galliade se débarrassa vite du premier soldat, lui plantant son épée dans la gorge, puis se précipita vers un deuxième, tout en essayant de voir où en étaient ses compagnons. Jolne, qui n'avait plus qu'Adèle avec lui, se battait avec l'épée de Fingin, beaucoup trop longue pour lui. Mais le nain semblait se débrouiller tout de même, tirant profit de sa petite taille pour surprendre son adversaire. Fingin venait d'envoyer un homme au sol et courait à présent vers les soldats qui arrivaient au galop. Feis avait ramassé la lance d'un des soldats à terre et se défendait avec peine. Erwan combattait 2 adversaires à lui tout seul. Mel et Caitlin, armés de bâtons, semblaient danser autour de leurs ennemis, fauchant ici, assommant là, et portant souvent secours à la barde qui était un peu dépassée. Voyant que tout le monde tenait bon, Galliade esquiva un coup de son adversaire, roula sur le sol pour se relever à côté du soldat et le frappa à la hanche d'un violent coup d'épée.
Aussitôt, le magistèle se retourna pour voir où était Aléa. Elle avait rejoint Fingin, et tous deux semblaient unir leurs forces pour repousser les cavaliers en projetant vers eux des éclairs bleus qui claquaient dans la nuit comme de longs fouets de feu. C'était un spectacle étonnant, beau et terrible à la fois. Le magistèle entendit alors un cri derrière lui. Se retournant, il vit Mel tomber à genoux, une épée plantée dans le ventre. Galliad bondit vers le cheminant pour le retenir dans sa chute, et tout en le protégeant de son propre corps, il s'attaqua au soldat qui venait de toucher le jeune acteur. Désarmé, le soldat n'eut aucune chance. Il eut la gorge tranchée au premier coup de lame. Le magistèle se retourna pour enlever l'épée du corps de Mel, mais horrifié, il comprit aussitôt que celui-ci, immobile, était déjà mort. Galliad se dressa en hurlant et se jeta vers un soldat de la flamme qui, quelques mètres plus loin, avançait sur Face. Le guerrier l'entendit et se retourna en armant sa hache. Galliad frappa sur la droite, mais le soldat para et fit tourner l'épée du magistèle pour l'amener vers le sol. Celui-ci fit un pas en arrière, dégageant son épée de la hache ennemie, et fondit de nouveau sur le soldat, pointe en avant. L'autre esquiva en faisant un pas de côté, mais ses yeux s'écarquillèrent dans une grimace hallucinée quand, venu de nulle part, la lance de Face transperça son dos. Il baissa les yeux et découvrit avec horreur la pointe ensanglantée qui était ressortie par ses entrailles. Il lâcha sa hache, essaya de se saisir de la lance, mais Face tira violemment en arrière pour dégager la pointe, entraînant les boyaux et le foie du soldat sur la lame en biseau. Le guerrier du Christ s'écroula sur le sol. Le magistèle adressa un regard à la barde et il se retourna pour voir s'il pouvait porter secours à quelqu'un d'autre. Mais tous les soldats étaient au sol à présent. Kathleen s'était jetée par terre et pleurait sur le corps sans vie de son frère, au milieu d'un terrible spectacle de mort. Erwan vint derrière elle pour l'aider à se relever. « Nous ne pouvons pas rester là, Kathleen. » Mais l'actrice ne tenait pas debout et se laissa tomber de nouveau, le visage baigné de larmes. Galliad fit signe à Mjoln et Face de le rejoindre.
Allons chercher ces chevaux. Il faut que nous partions d'ici au plus vite, leur dit-il, en montrant les montures des soldats qui avaient pris un peu de distance. Ramassez aussi des armes.
De l'autre côté, Fingin et Aléa arrêtèrent à leur tour leur attaque, voyant que les derniers soldats vivants avaient fui, et se retournèrent pour découvrir la scène derrière eux. Kathleen, portée par Erwan, pleurait devant le cadavre de Mel. Le druide se précipita vers eux et relaya Erwan. Il serra la jeune fille dans ses bras et passa sa main dans ses cheveux. Il ne savait que dire. Il ignorait quel mot employer. Sans doute aucune parole n'aurait pu soigner cette douleur. Et quand les autres revinrent avec les montures des soldats, il se contenta de déposer un baiser sur la joue de l'actrice et la porta jusqu'à son cheval. Alors qu'ils se préparaient tous à partir, Kathleen, en sanglots, les supplia.
« On ne peut pas le laisser là !»
Galliad acquiesça, descendit de cheval, prit le corps de Mel et le fit passer par-dessus sa selle. Avec Fingin, il aida la jeune fille à monter sur son cheval, puis ils partirent tous au galop vers l'est, derrière la silhouette obscure d'Aléa. Le soldat entra sans frapper dans la grande salle des archives. Feren Alroeg, Aeditus, Natalien et les généraux, penchés sur la grande table où tous inspectaient une carte de la Gaëlia, levèrent aussitôt la tête vers lui. Leurs visages apparurent dans la lumière d'une petite lanterne posée sur le bord de la table. La flamme vacillait, faisant danser les ombres de la pièce.
« Monsieur le comte !»
annonça le jeune soldat à bout de souffle.
« La jeune fille s'est enfuie !»«
Pardon ?»
s'exclama Alroeg en se redressant.
Des druides se sont introduits dans votre souterrain secret et l'ont aidé à s'enfuir, ainsi que ses deux compagnons.
Des druides, intervint Aeditus. Vous en êtes sûr?
Absolument, monseigneur. Ils ont usé de magie pour s'enfuir et pour repousser les soldats qui les pourchassaient. J'ai vu de mes propres yeux les grands éclairs qui sortaient de leurs mains, monsieur le comte. Mes frères ont péri brûlés. Je n'avais jamais vu une chose pareille.
Le comte frappa du poing sur la table.
Il ne manquait plus que cela. Par le Christ, avez-vous envoyé des hommes à leur poursuite?
S'enquit-il en se tournant de nouveau vers le soldat.
Oui, mais ils ont perdu leurs traces. Leurs attaques de feu nous ont empêchés d'avancer, monsieur le comte, et ils ont volé des chevaux. On sait qu'ils sont partis vers l'est, mais la nuit ne nous permet pas de les pister pour le moment.
Des druides, dit le comte en serrant les poings. Saïmina est donc déjà là.
Je ne pense pas qu'ils soient tous arrivés, monsieur le comte, répliqua le soldat d'une voix timide. Ils n'étaient que deux ce soir, pas plus. Mais nous venons de recevoir un rapport selon lequel les druides sont en ce moment même en route pour Philidène, où ils vont rejoindre les Tuatan. C'est aussi pour cette raison que je suis venu ici. Saïmina s'apprête à nous attaquer avec ses barbares.
Je vous l'avais bien dit, intervint Natalia. Il n'y a plus de temps à perdre. Nous devons attaquer les premiers si nous ne voulons pas être assiégés.
Évidemment, répliqua le comte, énervé.
Que croyez-vous que nous préparions ce soir? Nous attaquerons dès demain.
Et la jeune fille? Demanda à Aeditus.
Que voulez-vous faire?
Rétorqua le comte.
Il faudra la retrouver un jour, mais pour l'instant, c'est cette guerre qui doit nous préoccuper.
Et si elle se rangeait aux côtés des druides? Suggéra l'évêque.
Ce n'est pas possible, vous avez bien vu. Elle les déteste,
répliqua le comte. C'est vrai, mais si vous le permettez, je répète qu'il faudra absolument la retrouver. Je crois qu'elle a une importance capitale, et si nous voulons un jour asseoir notre autorité, cette jeune fille ne doit pas échapper à notre contrôle. Il serait très dangereux de la laisser aller librement.
Vous ferait-elle si peur que ça?
Son image me fait peur. Elle est capable de retourner le peuple contre nous. Vous l'avez vu, elle a un charisme et un caractère redoutable.
Je sais tout cela, Aeditus, mais pour l'instant, que voulez-vous que j'y fasse?
Peut-être devrions-nous concentrer nos efforts sur cette affaire également, et pas seulement sur la guerre.
C'est ridicule,
intervint Natalien, que seul le combat contre les druides intéressait, lui qui voulait récupérer les trois manites en leur possession.
À l'heure actuelle, le véritable danger vient des druides, pas d'une jeune fille.
Ne laissez pas votre haine des druides fausser votre jugement, répondit Aeditus d'un ton sévère.
Là n'est pas la question,
riposta Natalien.
Ce soldat vient lui-même de nous dire que les druides sont sur le point de nous attaquer. Cette jeune fille, elle, est en train de s'enfuir. Pas besoin d'être savant pour voir d'où vient le vrai danger.
Elle s'est enfuie de la prison. Mais elle est toujours en Harcourt et...
Cela suffit!
Les coupa le comte hors de lui. Alroeg fit quelques pas autour de la table. Il fulminait, et la fatigue n'aidait guère à améliorer son humeur.
J'écraserai ces druides comme une vulgaire colonne de fourmis!
S'exclama-t-il en s'arrêtant de l'autre côté de la pièce.
Nous attaquons demain. Et qui sait? La jeune fille est peut-être même déjà avec eux. Si ce n'est pas le cas, nous aurons alors tout le loisir de nous occuper d'elle, et cette fois-ci, je ne lui laisserai aucune chance.
Natalien acquiesça. Il lança un regard satisfait à Aeditus. Les druides étaient enfin à portée de sa main. Ils galopèrent vers l'est jusqu'au milieu de la nuit. Les chevaux étaient épuisés quand Galliad assura qu'ils n'étaient pas poursuivis. Ils se décidèrent donc à s'arrêter enfin, à bout de force. Les sept compagnons descendirent de cheval et installèrent en silence un petit campement en retrait du chemin. Kathleen, effondrée, pleurait encore, et Fingin vint s'asseoir auprès d'elle pour la soutenir. Galliad, sans mot dire, partit à l'écart en emportant le corps de Mel et commença à creuser un trou avec son épée, puis avec les mains. Il était épuisé, mais il mettait un point d'honneur à terminer son travail. Pour Kathleen, il voulait offrir à son frère une sépulture digne de ce nom. De leur côté, Bjoln et Faith préparèrent à manger avec quelques vivres récupérés dans les différents sacs. Il n'y avait pas de quoi faire un festin et il était trop tard pour partir chasser, mais cela suffirait pour calmer leur faim et reprendre un peu de force. Aléa, quant à elle, était assise devant Fingin et Kathleen. Elle regardait l'actrice pleurer en se tordant les mains. Encore une fois, quelqu'un était mort à cause d'elle. Elle avait été si heureuse de revoir Galliad et Erwan. Et maintenant,
Son destin la rattrapait de nouveau pour lui rappeler qu'il n'y avait pas de place dans sa vie pour quelque répit. Mais comment mettre un terme à tout cela? Quand donc cette spirale meurtrière prendrait-elle fin? Elle se sentait écrasée par le poids de ses responsabilités, dépassée par les événements. Elle était le Samil Danak, et c'était comme si tous les malheurs du monde apparaissaient à cause d'elle. Finalement, elle se leva et s'approcha lentement de Kathleen. « Merci, mademoiselle », chuchota-t-elle d'un air désolé. L'actrice ne répondit pas. La tête appuyée sur l'épaule de Fingin, elle pleurait en silence. « Je ne sais pas où vous et votre frère avez trouvé le courage et la bonté de venir sauver des gens que vous ne connaissiez pas, et je ne l'oublierai jamais. Je sais que cela ne vous rendra pas votre frère, Kathleen, mais même si je ne l'ai vu que très brièvement, son visage restera à jamais dans ma mémoire. Quant à vous, vous resterez mon ami pour toujours. » Les pleurs de l'actrice redoublèrent. Aléa s'approcha encore un peu et prit les mains de son aîné dans les siennes. Elle les serra contre son cœur. Étrangement, elle se sentait tellement proche de la cheminante, comme si elle l'avait toujours connue. Elle laissa le Saïman couler dans son corps, monter vers ses mains. L'énergie engloba lentement les doigts de la cheminante, remonta vers ses poignets, le long de ses bras. Aléa y mit toute la douceur qui restait en son cœur. Tous ses souvenirs les plus tendres, comme ceux des aubergistes qui l'avaient accueillie à Saratea. Elle rappela le souvenir de Tagore, son frère, comme pour exacerber un sentiment pur de fraternité et l'offrir à Kathleen par le biais du Saïman. Poussée par son instinct, elle espérait ainsi se donner comme sœur à l'actrice, lui céder un peu de son sang, une place dans ses veines. Elle s'approcha de l'oreille de la cheminante et chuchota. « Merci, grande sœur. » Puis elle se leva et la laissa dans les bras du jeune druide. Elle fit quelques pas pour rejoindre Mjoln, Erwan et Faith devant le feu, et quand elle se retourna de nouveau, elle vit que l'actrice ne pleurait presque plus. Ils s'assirent tous ensemble sur un grand tronc de bois à quelques pas des flammes, et Galiad les rejoignit bientôt, les mains couvertes de terre. « J'ai enterré Mel sous un grand chêne rouvre, » expliqua-t-il d'une voix pleine de douceur. « Avant de nous coucher, nous irons demander à la Moïra de l'accueillir. N'est-ce pas, Fingin ?» Le druide acquiesça. Alors ils commencèrent à manger. Pendant tout le repas, ils eurent bien du mal à rompre le silence, les yeux rivés sur les flammes. « La guerre risque d'éclater dans les prochains jours, » commença finalement Galiad. « L'Harcourt va attaquer dès demain, » confirma Aléa, sans lever la tête. « Je ne sais pas quelle résistance ils vont rencontrer. Ils veulent affronter les druides et les Tuatan, mais la galaxie... » « Et Hogan a été assassiné, » intervint Fingin. La jeune fille écarquilla les yeux. « Assassiné? Mais alors qui dirige le royaume? S'enquit-elle ?»
« Son épouse, » répondit Galiad.
« Amine ?»«
Oui, » confirma Galiad. « Et il semble qu'elle soit particulièrement difficile. Nous avons entendu dire à Rhia que la reine s'opposait au conseil, qu'elle durcissait le contrôle de l'armée sur tout le royaume et qu'elle n'allait pas défendre les druides et les Tuatan. Mais ce ne sont que des rumeurs. »
Aléa lança un regard vers Faith. Elle se souvenait des paroles de la barde quand elles avaient parlé ensemble de son amie d'enfance. Parfois le temps transforme les gens. Je ne saurais compter les amis que j'ai eus quand j'étais une enfant, que j'aimais tendrement, et qui me sont aujourd'hui complètement étrangers. Croyez-vous que les Harcourtois peuvent l'emporter si la galaxie ne participe pas au combat? Demanda la jeune fille au magistel. Galiad haussa les épaules.
Je ne sais pas.
Nous ne pouvons laisser le conseil se faire écraser par l'Harcourt, intervint Fingin.
« Comment ça ?» répliqua Mjoln. « On ne va quand même pas leur porter secours après ce qu'ils nous ont fait ?»«
Je vous rappelle que je suis druide, » rétorqua Fingin d'un ton sévère, « qu'Erwan est mon magistel et que malgré mon départ de Saïmina, je crois toujours en notre ordre. Quelles que soient les erreurs de certains de mes frères, je suis toujours au service de ma caste. »«
C'est surtout pour les Tuatan que je suis inquiète, » intervint Aléa d'une voix beaucoup plus calme.
Un silence s'installa aussitôt. Tous regardaient la jeune fille,
attendant sans doute des explications. Les druides ne vont pas tous participer à cette bataille, j'en suis sûre. Et s'ils se font écraser ici, si tous les frères envoyés au combat meurent, ils seront encore bien assez nombreux à Saïmina pour que le conseil reste debout. Mais les Tuatan, eux, seront tous dans ce combat. S'ils perdent, leur civilisation est vouée à disparaître. Les Tuatan sont mes ancêtres. Je ne le tolérerai pas.
Tes ancêtres ? S'étonna Galliad.
Ils la regardèrent tous avec étonnement.
Oui, Magistelle. Ma mère était une femme du Cid, et j'ai un frère dans le peuple Tuatan.
Galliad se tourna vers la barde. Il essayait de voir si Faye s'était au courant, mais elle paraissait tout aussi étonnée que lui.
Quoi qu'il arrive, reprit Aléa sans leur laisser le temps de réaliser vraiment ce qu'elle venait de dire. Nous devons leur porter secours. Je voudrais que les combats cessent, mais cette fois-ci, nous allons bien être obligés d'intervenir.
Les six autres se lancèrent de nouveau des regards médusés.
Mais ce n'est pas aussi simple que ça,
intervint Caitlin, qui avait séché ses larmes, mais dont la voix portait encore la marque de ses sanglots.
Nous avons entendu dire qu'une vaste armée de Gorgones était en train de marcher vers le nord.
Oui, répliqua Aléa, mais c'est à moi qu'ils en veulent cela. Et ils ne sont pas encore ici. Nous nous occuperons d'eux plus tard. Bjorn soupira et se prit la tête dans les mains.
Toutefois, continua Aléa, nous ne pouvons pas tous aller porter secours aux Tuatan. Le temps presse, et je dois me rendre au mont Tombe avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons donc devoir nous séparer dès demain.
Elle regarda ses compagnons les uns après les autres. Elle ne leur parlait plus comme à des amis à présent. Elle leur donnait des ordres, tout simplement.
Galliad, Erwan et Fingin, vous irez vers Philiden pour porter secours aux Tuatan. En chemin, vous rassemblerez tous les hommes de bonne volonté sous ma bannière pour former une armée. Peut-être ne pourrez-vous réunir que 10 hommes, peut-être que 1000 vous suivront. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez à Philiden pour porter secours aux Tuatan. Il y a un garçon là-bas, qui se nomme Tagor. L'un de ses yeux est bleu, l'autre est noir. Il est mon frère. S'il lui arrive quelque chose, je ne vous le pardonnerai jamais. Faith, Mjoln et Caitlin, vous viendrez avec moi au mont Tombe.
Faith inspira profondément. Aléa devina dans son regard qu'elle regrettait de devoir de nouveau se séparer de Galliad, mais qu'elle n'osait le dire. La jeune fille vit aussi dans les yeux de Caitlin et Fingin qu'ils ne voulaient pas se séparer, mais elle était sûre qu'au fond d'eux-mêmes, tous comprenaient qu'il devait en être ainsi. Pour le moment. Après tout, Aléa aurait préféré, elle aussi, rester auprès d'Erwan. Mais il n'y avait plus de temps à perdre.
« Nous vous rejoindrons tous au plus vite à Philiden, » promit-elle enfin.
« Tu veux que nous réunissions des hommes sous ta bannière ?»
demanda Galliad, perplexe.
« Mon nom commence à être connu en Gaelia, » expliqua Aléa.
Sa voix était assurée, mais ceux qui la connaissaient bien ici voyaient qu'elle détestait avoir à dire cela.
« Je suis le Samil d'Anak. Beaucoup seront prêts à se battre pour moi. »
Aléa se tourna alors vers Caitlin.
« Vous êtes, j'en suis sûre, agile de vos doigts. Pourriez-vous broder dès ce soir un symbole sur plusieurs étoffes pour que Galliad et Erwan puissent les porter comme étendard ?»«
Un symbole ? Lequel ?»
s'étonna Caitlin. Aléa enleva la bague à son doigt et la leva devant elle en la maintenant entre son index et son pouce. L'anneau en or étincela dans la nuit. Fingin écarquilla les yeux.
Ce symbole-là, deux mains qui couvrent un cœur et une couronne.
C'est le symbole du Samil d'Anak, murmura le druide.
Ce sera celui de mon armée, affirma Aléa en remettant son anneau.
Caitlin acquiesça.
Je devrais pouvoir y parvenir. « Essayez de trouver du tissu blanc, » demanda Aléa. « Je veux que ma bannière soit brodée de rouge sur fond blanc. »
Elle adressa un sourire à l'actrice, puis d'un ton beaucoup plus posé, elle demanda au magistèle.
« Galliad, la louve vous a trouvé, n'est-ce pas ?»
Aldaman acquiesça lentement, comme troublé par l'assurance d'Aléa qui ne cessait de grandir de jour en jour.
« Oui, ta louve nous a trouvés. »
« Et vous savez où elle se trouve à présent ?»«
Non, elle nous a quittés quand nous avons rencontré Fingin. Nous avons changé de cap pour Rhea et nous l'avons perdue de vue. »«
Je comprends. Je suis heureuse que vous l'ayez suivie. Merci. Merci à tous d'être venus nous chercher. »
Puis elle soupira.
« Voilà, » dit-elle. « J'aurais aimé passer du temps avec vous tous sans que nous ayons à nous soucier de tout cela. » Mais si vous êtes ici, c'est que vous avez accepté d'entrer dans cette histoire. Mon histoire. Mon fardeau. Et pour l'instant, il n'y a pas de place dans tout cela pour le repos que nous méritons tous. Je suis désolée. Je vous remercie infiniment, tous, d'être ici. Mais demain, nous devrons nous séparer. Nous n'avons pas d'autre choix.
C'est un plaisir de servir quelqu'un comme vous.
Déclara Fingin, que le charisme d'Aléa avait depuis longtemps convaincu. Il s'était demandé ce qui avait pu motiver Felim, Galiad et Erwan. Comment une fille aussi jeune avait pu ainsi éveiller leur intérêt, pire encore, leur passion. Mais aujourd'hui, il comprenait. Il pouvait voir la sincérité de leur foi. Aléa était le Samil Danak. Telle était la seule vérité. Et l'on pouvait mourir pour elle. Kiaran est ici. Il est discret à présent. Il respecte le souhait que j'avais formulé. Je peux lui faire confiance. Kiaran ?
Bonjour, Aléa.
J'ai besoin de vous.
Je vous écoute.
Je suis en Harcourt.
On m'a dit que vous aviez été enlevée par le comte Alroeg.
Oui, plus ou moins, mais ce n'est pas important. J'ai été délivrée.
Par qui ?
Galiad, Erwan et Fingin, vous n'êtes pas le seul à Saïmina sur qui je puisse compter.
Alors Fingin est parvenu à vous trouver. Bien, c'est un druide exceptionnel.
Oui, il a rencontré deux jeunes cheminants qui l'ont accompagné.
Deux jeunes cheminants ? Comment s'appellent-ils ?
Caitlin et Mel.
Il a l'air surpris. Il les connaît.
Leur nom vous dit quelque chose ?
Son silence trahit un trouble.
Oui.
Ce sont mes neveux et nièces, Aléa. Voilà une coïncidence étonnante. Je me souviens maintenant, ses habits de cheminant. Il était ainsi la première fois que je l'ai vu ici. Se peut-il qu'il soit leur oncle ? Pourquoi me mentirait-il ? Par la Moïra, je vais devoir lui annoncer la terrible nouvelle. Puis-je le faire ici ? Je le dois. Je lui dois cette sincérité.
Qu'y a-t-il ?
Il devine à présent mon propre embarras. Je ne peux pas lui mentir. Je suis désolée, Kiaran. Mel est mort dans les combats qui ont suivi mon évasion. Ses yeux s'ouvrent si grands. Je le vois pleurer à présent. Kiaran est un homme si pur. Il ne sait cacher aucun sentiment. Il pleure comme un enfant. Comme nous devrions tous pleurer. Je suis vraiment désolée, Kiaran. J'entraîne la mort autour de moi. Il relève la tête. Il parvient à sourire.
Ne vous en faites pas, Aléa. Bientôt vous entraînerez la vie. C'est ainsi.
Que veut-il dire ? Il est si énigmatique, comme d'habitude.
Mel était un jeune homme extraordinaire. Je suis content que vos routes se soient croisées.
Il serait vivant si...
Ne dites pas de bêtises. S'il n'avait pas voulu risquer sa vie, il ne serait pas venu vous délivrer. Il a dû estimer que c'était la voix de la Moïra. Et c'est bien ainsi.
Il ne pleure plus. Caitlin est bouleversée.
Bien sûr. Mais ne vous en faites pas, Aléa. Elle vous restera fidèle, j'en suis sûre.
Je m'en veux tellement.
C'est à ceux qui l'ont tuée qu'il faut en vouloir.
Sans doute. J'aimerais tellement voir Kiaran hors de Jar. Il y a quelque chose de si sincère dans sa voix, dans ses yeux. Il est tout le contraire des vieux druides du conseil. Pas de manipulation, pas de non-dit. Kiaran, dites-moi ce que le conseil a décidé concernant l'Harcourt.
6 de nos frères devaient partir avec les magistels et les 2/3 des druides de Saïmina. Othélian, Kalan, Lorcan, Tiernan, Enon et Odran ont été désignés. Mais Enon et Kalan ont disparu. Hernan pense qu'ils sont venus vous rejoindre, comme Fingin. Mais ce n'est pas ce que je crois. C'est-à-dire ? Une 10aine de jeunes druides aussi ont disparu. Et je pense qu'ils sont partis pour la galaxie.
Pour la galaxie ?
Je crois que la reine veut diviser Saïmina. Et il semble qu'elle y soit parvenue. J'ai entendu dire qu'elle avait l'intention de réformer notre ordre pour que les femmes y soient acceptées, et surtout pour en devenir l'archidruide au palais de Providence. Apparemment, elle a déjà réussi à convaincre certains d'entre nous.
Amine aurait fait cela ? Je n'arrive pas à m'habituer à l'idée que mon amie d'enfance soit devenue non seulement adulte, mais reine, et je suis surprise de la voir aussi investie dans son rôle. J'aimerais tellement la voir, comprendre. Savoir. Est-elle devenue ce monstre que les rumeurs laissent imaginer? Croyez-vous que c'est elle qui a assassiné son mari?
J'en suis absolument convaincue.
Mes poings se serrent. Ce que vous m'annoncez est terrible.
La vérité l'est trop souvent. Et ce n'est rien à côté de la guerre qui nous attend. Les 4 grands druides restants sont déjà partis avec les magistels et les druides. Ils sont en route pour Philiden. Je vois un massacre se dessiner devant nous, et je ne sais que faire pour l'éviter.
Il y a tant de détresse dans sa voix. Je voudrais moi aussi pouvoir empêcher cette guerre, mais cela ne me paraît plus possible. Pourtant, n'est-ce pas précisément ce que je devrais faire? Mais j'arrive trop tard, et je ne suis pas encore assez forte. Je crois que je ne suis même pas à la moitié du chemin que je dois parcourir pour comprendre ce que j'ai à faire. Kiaran, nous ferons de notre mieux. Je dois vous laisser maintenant. Je dois aller voir quelqu'un.
Oui, je sais. Votre frère.
Vous savez ? Il se retourne et s'éloigne dans les nuées de Jar. Kiaran, comment savez-vous ? Druide, attendez ! Il est parti. Je ne peux pas le rattraper. Comment sait-il ? M'aurait-il encore espionné ? Non, il m'avait promis, et je suis sûre qu'il tient ses promesses. De plus, j'aurais senti sa présence. J'en suis capable maintenant. Alors quoi ? Connaîtrait-il mon passé ? S'il sait que j'ai un frère, il sait peut-être d'autres choses encore. Pourquoi est-il parti ? Il ne voulait pas me répondre. Quel secret veut-il garder ? Je dois aller voir Tagor. Il saura peut-être. Il ne doit pas être loin. Je n'ai qu'à penser à lui. Ses yeux. Si profonds. Si étranges. L'un bleu et l'autre noir. Tagor. Son image se dessine peu à peu comme à la surface d'un lac. Tu es là ?
Bonjour, petite sœur. Je suis heureux de te voir.
Mon cœur s'emplit de tendresse à sa seule voix. C'est comme si je l'avais toujours connue et que nous nous retrouvions enfin. Mais l'heure ne nous laisse pas le loisir de simples retrouvailles. Oh, Tagor, j'aimerais tellement avoir de bonnes nouvelles à t'annoncer. Mais nous vivons des temps si troubles.
Je ne sais pas même encore tout à fait ce que c'est que de vivre le temps, Aléa. Depuis que nous avons quitté le Cid, tout est nouveau pour moi.
Je crois que nous ne pourrons éviter cette guerre qui nous horrifie tous les deux. L'Harcourt est en route pour Philiden. Ils viennent pour vous affronter. Les druides sont en marche. Ils combattront à vos côtés. Mais je ne sais pas s'ils suffiront pour défendre ton peuple.
Je ne suis plus parmi les miens, Aléa.
Que veux-tu dire ?
J'ai échoué. Et j'ai préféré partir. J'ai espéré que mes frères pourraient alors se raisonner, mais seuls quelques-uns m'ont suivi. Nous sommes dans les montagnes de Gordraka. Mais je le regrette aujourd'hui. Nous sommes des lâches, n'est-ce pas ?
L'équilibre se rompt là aussi. Partout les ordres se défont. Saïmina, la galaxie, la Terre brune, et maintenant les gens du Cid. Non, Tagore, tu as bien fait. Si vous n'êtes qu'une dizaine, vous n'auriez de toute façon pas fait la différence. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Il faut que vous restiez dans la montagne. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'aurai peut-être besoin de vous selon l'issue de cette guerre. Mes frères vont se faire écraser pendant que je serai ici, à ne rien faire. L'idée m'est insupportable. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les défendre. Les druides sont en route, et j'envoie moi-même d'autres hommes. Je ne peux pas rester spectateur, Aléa. Je dois redescendre. Tagore, non. J'ai besoin que tu restes à l'écart. Tu auras ton rôle à jouer plus tard, mon frère, je te le promets. Et si les tiens venaient à perdre cette bataille, je te donnerai l'occasion de les venger. Ils ont choisi cette guerre que tu ne voulais pas. Tu n'as rien à te reprocher, et eux ne peuvent pas te l'imposer.
Si seulement c'était si simple.
Tu dois rester à Gordraka. Bientôt je viendrai te rejoindre. Attends-moi.
Il soupire.
Je ne sais pas s'il m'obéira. J'espère ne pas me tromper. Je ne veux pas perdre mon frère à présent. Et j'irai le voir bientôt. Tagore, connais-tu le druide Kiaran?
Non, qui est-il?
C'est un membre du conseil. Il savait que j'avais un frère. Il semble savoir des choses sur moi et je ne sais pas comment. Je me demandais si tu le connaissais ou si tu en avais entendu parler.
Non, Aléa, je suis désolée.
Ce n'est pas grave. Je dois partir maintenant. Il faut que je dorme. Reste dans les montagnes, grand frère, et attends-moi. Attends-moi.